Merci d'écouter RFI, il est 2h à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez.
Mathis Limano.
Au sommaire de l'actualité, ils pensaient regagner leur village mais ont été pris pour cible par des soldats israéliens. Dans le sud du Liban, 22 personnes sont mortes alors qu'elles tentaient de retourner dans leur foyer. Dans la zone, Israël devait retirer ses troupes ce dimanche. Une prolongation de 3 semaines de l'accord de trêve a finalement été actée avec Beyrouth. La reprise des transferts controversés de migrants de l'Italie vers l'Albanie. 49 personnes ont été embarquées ce dimanche matin. Après plus de 2 mois d'interruption, on verra pourquoi. Et puis 6 semaines... Après le passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte, plus de 100 000 élèves vont retrouver le chemin de l'école. La rentrée des classes, plusieurs fois reportée en raison de l'état des établissements, a lieu ce lundi. C'est un retour dans leur foyer qui a tourné au bain de sang. Au Liban, 22 habitants du sud ont été tués, 125 personnes blessées sous le feu de soldats israéliens. Ils tentaient de regagner leur village encore occupé par l'armée israélienne, censée achever son retrait du territoire libanais ce dimanche. Après une médiation américaine, Tel Aviv et Beyrouth ont finalement convenu de prolonger l'accord et donc le retrait d'Israël au 18 février, soit dans un peu plus de 3 semaines. RFI Beyrouth, Paul Khalife.
Le rideau n'est pas encore tombé sur les événements au sud du Liban où la situation reste confuse et tendue. La réaction violente de l'armée israélienne face au mouvement de retour forcé des déplacés d'une 60aine de localités interdites d'accès n'a pas brisé la détermination des habitants. Dans certaines localités frontalières, des familles ont décidé de passer la nuit sur les décombres de leurs maisons et ont installé des tentes malgré la proximité des troupes israéliennes. Dans d'autres villages, la foule a reculé tout en promettant de revenir en plus grand nombre lundi. Les habitants du sud du Liban ont ouvert la voie à l'armée libanaise qui a pu entrer ce dimanche dans une 20aine de localités, dans le sillage des foules enthousiastes et déterminées. L'armée israélienne, elle, reste présente dans 18 villages, essentiellement situés dans le secteur oriental de la frontière, et tente de faire sortir les habitants qui ont regagné leurs terres dans des localités jugées stratégiques. Ce mouvement de retour a surpris les hauts dirigeants libanais et l'ensemble de la classe politique qui a appelé à la retenue par crainte pour la sécurité des déplacés. Des personnalités de divers horizons politiques et des dirigeants religieux chiites, sunnites et druzes ont loué le courage des habitants du sud Liban et rendu hommage à leur attachement à leur terre. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Les habitants qui veulent rejoindre le nord de Gaza vont pouvoir traverser le corridor de Netzarim lundi matin. Annonce du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ils sont des dizaines de milliers bloqués par l'armée israélienne le long de cette bande de terre militarisée coupant la bande de Gaza en deux. Ce feu vert israélien fait suite à l'envoi par le Hamas de la liste complète des otages libérables dans le cadre de l'accord de trêve. 3 otages supplémentaires doivent être libérés jeudi, 3 autres samedi. Nouvel épisode dans le bras de fer entre Washington et Bogota. Les États-Unis annoncent suspendre la délivrance de visas dans leur ambassade en Colombie. Cela fait suite à des droits de douane interposés, chaque pays ayant décidé de frapper l'autre de 25% des biens importés. À l'origine de cette escalade, le refus par la Colombie de laisser atterrir sur son sol des avions américains transportant des migrants colombiens. Le président colombien Gustavo Petro est allé jusqu'à annoncer l'envoi de son avion présidentiel vers les États-Unis pour, je cite, ramener dignement les ressortissants de son pays. Le transfert en Albanie des migrants arrivés en Italie va lui reprendre. En 2023, Rome et Tirana signaient un accord d'externalisation des demandes d'asile. Les 2 premiers transferts avaient débuté à l'automne 2024, mais ils avaient échoué en cause des décisions de la justice italienne invalidant la rétention de ces migrants. Ils étaient une 20aine au total. Le gouvernement Meloni a cependant décidé de retenter ce qu'il considère comme une solution innovante. Ce dimanche, un patrouilleur de la marine militaire a levé l'ancre au port de Lampedusa et ce, pour rejoindre le port de Shenzhen avec 49 migrants à bord, Anne Lenir.
La reprise des transferts de migrants vers l'Albanie, uniquement des hommes adultes considérés comme non vulnérables, est liée à 2 principales raisons. D'une part, le gouvernement Meloni a décidé de ne plus attendre la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, chargée de vérifier si la législation italienne est conforme au droit européen. D'autre part, une nouvelle mesure donne le pouvoir d'invalider ou non la détention en Albanie d'un migrant au juge des cours d'appel d'appel et non plus au juge de la section des affaires migratoires des tribunaux que l'exécutif estime plus favorable aux demandeurs d'asile. Les centres d'identification dans le port de Shenzhen et de rétention administrative à Jader sont donc de nouveau opérationnels après avoir été vidés du personnel pendant plus de 2 mois suite à l'invalidation de la rétention de tous les migrants, pour la plupart bangladais et égyptiens. Mais le risque de nouveaux revers judiciaires pour le gouvernement italien est bien réel. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et 53 autres migrants ont spontanément présenté leur passeport afin d'éviter leur transfert, ce qui accélérera les procédures pour vérifier s'ils peuvent bénéficier du droit d'asile dans l'Union européenne ou doivent être rapatriés. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi. Tous les regards se tournent vers la Russie après le sabotage aggravé d'un câble sous-marin en mer Baltique. Ce sont les termes de la Suède qui a ouvert une enquête. Le câble relie le pays à la Lettonie. Stockholm annonce avoir saisi un navire suspecté d'être à l'origine du sabotage. Selon des experts et responsables politiques, ces dégradations de câbles sous-marins qui se sont multipliées depuis l'année dernière sont le résultat d'une guerre hybride menée par Moscou contre les pays occidentaux.
RFI.
Il est 3h06 à Goma, en RDC, le conflit dans l'est du pays. Au cœur d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce dimanche, des éléments du M23 soutenus par le Rwanda seraient déjà dans certains quartiers de Goma, où l'on entend, selon de nombreux témoignages, des tirs sporadiques jusqu'au centre de la ville. Le Kenya annonce un sommet de la communauté d'Afrique de l'Est avec les dirigeants congolais et rwandais. Au Cameroun, c'est un rapport qui suscite beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup de défiance. Ce mardi, à Yaoundé, sera remis au président Paul Biya le fruit du travail de la commission de chercheurs français et camerounais sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Un texte déjà remis mardi dernier au président français, dont le contenu n'a pas encore été rendu public. Un projet initié par Emmanuel Macron lors de sa visite au Cameroun en juillet 2022. Il s'était alors engagé à rendre entièrement accessibles les archives françaises afin de contribuer à faire la lumière, et ce sur une période sanglante et traumatisante pour la société camerounaise, Amélie Tulé.
Pour Anissé Ekané d'Humanidem, parti qui se revendique de l'héritage des indépendantistes de l'UPC, l'initiative d'Emmanuel Macron vise à disculper la France de son rôle dans la répression de l'époque. On ne peut pas demander au bourreau de faire le bilan de son œuvre, dit-il, même s'il n'a pas encore connaissance du contenu du rapport. Pour le professeur Mathias Eric Owananguini, il y a aussi beaucoup de défiance du côté des milieux dirigeants actuels à Yaoundé, qui redoutent selon lui de voir la France se défausser sur ses alliés camerounais d'alors. Selon un autre universitaire, le professeur Thomas Tenga, la question cruciale, c'est qui a fait quoi et sous l'impulsion de qui dans ce que des spécialistes nomment la guerre du Cameroun, comme on parle de la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie. Dans le libéralisme communautaire, le président Paul Biya écrivait que l'indépendance du Cameroun fut arrachée aux colonisateurs à travers des luttes acharnées par de nombreux et dignes enfants du pays dont les œuvres ont été réhabilitées, mais sans les nommer. Et à ce jour, il n'existe pas de commémoration officielle pour Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Ernest Ouandié et leurs compagnons de lutte.
Amélie Tulé. Cette rentrée des classes, parfois au milieu des décombres, à Mayotte. 6 semaines après le passage dévastateur du cyclone Chido, la rentrée des classes a lieu ce lundi sur l'archipel. 117 000 élèves vont reprendre leur place au sein des écoles. Et ce, même si certains établissements n'ont pas été remis en état et que d'autres restent occupés par des sinistrés, des conditions très précaires que décrit Youssouf Abdallah du syndicat SNU. IPP-FSU.
Il y a des endroits où il va être très difficile de pouvoir accueillir l'ensemble des élèves, car il y a des salles de classe qui n'existent plus maintenant. C'est un bricolage qui va se faire, des rotations. Je ne sais pas comment on va pouvoir s'organiser. Donc nous, en tant que professeurs et surtout membres de notre syndicat, nous demandons à ce que l'État soit sûr qu'il puisse envoyer une commission qui puisse déterminer les conditions sécuritaires pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
Youssouf Abdallah, interrogé par Laurence Théo. Un mot de foot pour refermer votre journal. Marseille enchaîne un deuxième match sans victoire en fermeture de la 19e journée de Ligue 1, battu à Nice 2-0. Et puis carton plein en Espagne pour le FC Barcelone, victoire 7-1 à domicile contre Valence. Enfin, du tennis, Yannick Sinner conserve son titre à l'Open d'Australie. Le numéro 1 mondial a dominé son dauphin en finale, l'Allemand Alexander Zverev en 3-7. Yannick Sinner devient le premier Italien à remporter 3 titres du Grand Chelem. Il est 2h10 à Paris. Merci d'être fidèle à RFI.